Philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 8 décembre 1994.
L'année de la famille au plan interne. national, l'année de la famille, au plan de l'Église. C'est pas la même chose. Je crois pas que, au plan international, l'année de la famille pense beaucoup à la Sainte Famille. Les réunions au Caire, Sainte Famille régnait. Et pour l'Église, la Sainte Famille est toujours présente. Et dans l'Église, la vie monastique est une famille. Et l'Église est elle-même une famille. L'Église est famille. L'Église est peuple. Et l'Église maintient la personne.
Yes.
famille au point de départ. Quand je parle au point de départ, je parle de notre Europe et des fondements de l'Europe. Parce que dans l'Inde, on aurait le même problème. La famille au niveau d'Aristote, au temps d'Aristote, la famille intègre l'économie. L'économie est une économie familiale. C'est dans ce sens-là que la famille intègre trois relations. La relation de l'époux et de l'épouse, la relation des parents et des enfants, la relation du maître et de l'esclave. Du maître et du serviteur. Comme ça, ça n'a pas de... une modalité affective. Du maître et du serviteur. Or, de fait, aujourd'hui, l'aspect travail n'est plus au niveau familial, sauf de très rares exceptions. Quand ça reste à un niveau artisanal, il y avait encore, c'est pas si vieux que ça, et ça existe encore, surtout en Italie. Il existe encore l'aspect artisanal lié à la famille. Il est évident que quand l'aspect artisanal grandit, il devient industriel et il sort de la famille. Mais dans le capitalisme, il reste lié à la famille. Puisque c'est quand même la famille qui l'a fondée, c'est quand même la famille qui a les droits. Alors il y a des conflits familiaux entre l'économie et la famille, ça c'est... Et qui sont des conflits terribles quelquefois. Mais quand c'est des membres de la famille qui sont les maîtres, les deux frères ou trois frères, et puis trois frères qui ne s'entendent plus, et qui font crouler l'industrie à cause des mésententes des frères. Quand il n'y en avait qu'un, ça allait. Et quand il y en a trois, ça va moins bien. Parce qu'il n'y a que la très sainte Trinité où trois font un. En dehors de la très sainte Trinité, au point de vue économique, 3 et 3. Et chacun tire pour soi, et on sait que psychologiquement, la situation en triangle est la situation la plus difficile à maintenir. Quand on est deux, on s'entend. Parce que le plus faible comprend qu'il ne peut exister que s'il se soumet au plus fort. Mais alors, il se rattrape par l'astuce. Tu vois ? Quand on est plus faible économiquement ou physiquement, on devient plus intelligent pour rattraper d'une façon par l'astuce. Tu vois, on laisse, oui, tu es très fort, tu es très bien, mais je te rattrape autrement. C'est comme ça que ça s'entend, hein, ce déséquilibre très particulier. Trois, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que du temps d'Aristote, l'économie était familiale. Artisanal, c'est l'industrie qui de fait avait éclaté la famille. Ou, si vous voulez, refermer la famille, parce qu'on peut le comprendre de deux manières différentes. La famille aujourd'hui est plus famille que du temps d'Aristote. Parce que l'économie et le travail est en dehors de la famille, à part des exceptions. Quand le cabinet de travail est juxtaposé à la famille, c'est dans la même famille, dans le même lieu qu'on travaille et qu'on est dans la famille, il n'y a qu'une porte à changer. famille, mais c'est lui, c'est la même personne. Et quand il a des soucis, ça se répercute sur la famille, ça ne peut pas être autrement. Oui, donc il y a toujours un lien qui reste. Mais c'est beaucoup plus net. La distinction devient une séparation. Et la famille, par le fait même, se resserre. Et la famille, c'est les liens entre l'époux et l'épouse, et les parents et les enfants. La question du maître et de l'esclave, du maître et du serviteur, c'est extérieur. Mais ça, c'est toute l'évolution de la famille. Et la troisième évolue, puisque ça, c'est l'évolution qui s'est faite. Première famille, deuxième famille, troisième famille. Aujourd'hui, l'effort international fait que la famille n'est plus l'unique communauté fondamentale. À côté, il y a d'autres communautés. Et c'était l'effort du Caire, vous voyez, de faire que la famille ne soit plus la base de la politique et le fondement de la cité, ce qu'elle a été jusque maintenant. Et que de fait, il puisse y avoir d'autres communautés. On s'en fiche du point de vue moral, on ne regarde que le point de vue de la communauté, c'est tout. Et la famille n'est plus considérée comme une communauté qui a un droit particulier parce qu'elle est fondée sur la nature. La nature n'existant plus. Depuis le nominalisme de Occam, la nature n'existant plus, il n'y a plus que des individus et des personnes. Et alors, par le fait même, ils ont le droit de s'unir comme ils veulent. C'est tout. Pose la question, vas-y, des homosexuels peuvent-ils avoir des adoptions ? Avoir des enfants par adoption ? Ils ont formé une famille. C'est dans la pensée, c'est dans l'idéologie du libéralisme absolu. Hein. Ça, c'est très net. Ça va jusque-là. Donc, à ce moment-là, vous voyez, la famille se restreint de plus en plus. C'est très, très curieux, ça. Parce qu'il n'y a plus... Le point de vue, vous voyez, ça n'existe plus que dans le point de vue artisanal, l'exploitation familiale, de la terre, de l'élevage. Là encore, on trouve ça. Mais, la plupart du temps, la famille est restreinte. On vit en appartement. C'est tout dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer du tout pour une communauté religieuse de vivre en appartement. Parce que c'est la voie vers la destruction de la communauté. Ça joue ça. Faut pas l'oublier. Il faut comprendre ces évolutions, il faut essayer de les saisir et voir dans quelle mesure ces évolutions vont contre le bien commun de la famille. Et qu'est-ce que c'est que le bien commun de l'État ? C'est la grosse question. Le bien commun de la famille, qu'est-ce qu'il est ? Le bien commun de la famille, c'est l'amour des conjoints, source de vie pour des enfants, pour une famille. Le bien commun de la famille, c'est donc le point de vue du bien-vie, de la survie de l'espèce par la procréation. Et le bien des enfants et des parents. Pouvoir vivre, pouvoir élever les enfants. C'est le bien commun, ça. Direct. Et c'est commandé par l'amour des parents. Donc c'est l'amour des parents qui... L'amour d'amitié des parents se et dans le point de vue d'élever et d'éduquer des enfants pour qu'ils deviennent des personnes. C'est donc une communauté extrêmement structurée par la charité, par l'amour d'amitié et un amour d'amitié naturel. La famille est une communauté naturelle, comme l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse, un fondement naturel. Mais ce qu'on doit essayer de maintenir aujourd'hui, un vent et contre-vent, je crois qu'on doit maintenir à tout prix ça. Mais c'est pas commode, parce que les gens ne savent plus du tout ce que c'est que la nature. Et ça, c'est vieux, c'est depuis Occam. La nature est supprimée depuis Occam. Il n'y a plus que des individus et des personnes. On ne sait plus ce que c'est que la nature. C'est tout le grand problème de la bioéthique. S'il n'y a plus d'éthique personnelle, n'est-ce pas ? Si l'éthique personnelle dépend du progrès de la science, il n'y a plus de nature. Parce que la science ne sait pas ce que c'est que la nature humaine. Pour savoir ce que c'est que la nature humaine, il faut savoir ce que c'est que l'esprit. Il faut savoir ce que c'est que l'amour d'amitié. Or, on ne sait plus ce que c'est que l'amour d'amitié. Donc, on ne sait plus ce qu'il y a de naturel dans la famille. C'est ça le drame, au fond, au point de vue profond. C'est ça la destruction très très fondamentale dans notre monde aujourd'hui. Et c'est durant ce siècle-ci, hein, le siècle précédent, ça existait encore. C'est l'autre moitié de ce siècle où il y a ce fait qu'on est en présence d'une éthique libérale qui ne sait plus ce que c'est que la finalité, qui ne comprend plus ce que c'est que la nature humaine. Et donc, c'est le libre amour, comme on le veut. Le tout, c'est de pas tuer son voisin. Hein? Tuer son conjoint, ça va encore. Mais tuer son voisin, le voisin, non. Mais au fond, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Il faut regarder les choses comme elles sont. C'est terrible, c'est comme ça. C'est là, comme l'autre jour, on m'a raconté des histoires comme ça qui sont tout à fait qui sont actuelles, n'est-ce pas ? Dans une famille où l'époux est terrible, le mari est terrible, une jalousie effrayante. La pauvre femme, elle fait comme elle peut, et quand on est comme ça sous le joug de la jalousie, on essaie de s'évader comme on peut, de respirer un tout petit peu. Et alors on m'a raconté qu'elle avait été, qu'elle aimait quelqu'un d'autre, et qu'elle le cachait son mari, parce qu'elle se ferait tuer, elle serait tuée autrement. Et voilà qu'elle a un enfant, alors elle le cache le plus qu'elle peut. Et quand l'enfant naît, elle le tue. Tellement elle avait peur de son mari. Et ça va jusque-là. Hein. C'est dans un monde cultivé. Un monde qui a été chrétien. Elle a enterré l'enfant de... l'ayant tué pour que Marie ne sache rien. C'est assez affolant. Alors vous voyez, ce que je dis, c'est que vraiment on arrive à des mœurs qui ne sont plus du tout humaines. Et ça c'est la destruction de la famille. Chose comme ça montre bien. Alors il y a ça, il y a d'autres manières, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Il y a la destruction de la famille. Alors il y a encore la famille chrétienne, il y a encore des familles humaines qui se tiennent, mais ça devient exceptionnel, presque. Parce que s'il n'y a pas de divorce, il y a un désarrangement. s'arrange. C'est tout. Alors, je crois qu'il faut philosophiquement comprendre l'enracinement naturel de la famille. Et pour ça, comprendre ce qu'est l'éthique personnelle qui repose sur la nature. Comprendre ce que c'est que la personne humaine qui implique le point de vue de la nature. La nature, c'est le donner. Nous faisons partie d'une race humaine, d'une nature humaine, et qui fait que qu'il y a quelque chose de radicalement en commun. Et ce quelque chose en commun est vécu au niveau familial de la manière la plus forte. C'est la famille qui représente le lieu de conservation de la nature humaine. Ça, c'est sûr. Et c'est le bien de la famille, c'est de garder la nature humaine comme une réalité vivante dans laquelle on s'enracine. Et c'est l'amour des conjoints qui permet de maintenir cette nature. De la nature humaine et l'amour de la nature humaine. Et le bien commun relève de cela. C'est au fond assez simple, le bien commun de la famille. C'est très fondamental. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit maintenir, garder le sens de la nature humaine. Garder le sens de l'amour d'amitié entre les conjoints. Garder le sens de la fécondité et le respect de la fécondité. Que l'homme n'est pas le maître de la fécondité. Ça relève de la nature. Alors ça revient, vous voyez, à cette notion très ancienne et qui est perdue. Aristote, et je crois qu'on doit le maintenir, fait cette distinction très nette entre l'instinct individuel au point de vue du boire et du manger. J'ai le droit à vivre individuellement. Et donc, j'ai le droit de manger et de boire pour me nourrir, pour vivre. Et la famille maintient ce droit. Et la famille maintient en plus le droit à la vie, à la procréation. Alors, c'est l'instinct. Parce qu'on montre là la finalité de cet instinct-là, qu'est l'enfant. les heures de nourriture, les heures d'alimentation. Ça, c'est déjà pas si mal. Quelqu'un qui sait garder la maîtrise de soi par rapport au boire et au manger. Jusqu'à l'heure du repas. À l'heure du repas, on ne se précipite pas. Sur le pain qui est là, sur la pomme qui est là. Et on se fait tout. Non. Il y a une liturgie. Une liturgie qui ne doit pas être trop longue. Parce qu'autrement, la vertu de tempérance serait trop à l'épreuve. Et on ne prierait plus beaucoup. Parce qu'on va être affamé dans bonne oreille. Même pas l'oreille de la foi. Alors c'est ça, c'est l'éducation première. Et c'est la première éducation de la chasteté. Aussi par rapport à l'instinct sexuel. Et pour Aristote, l'instinct individuel, c'est par rapport au boire et au manger. L'instinct sexuel pour la progression relève de la nature. Donc c'est un instinct enraciné dans la nature. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical, et qui échappe à l'individu. Et cependant, la vertu de tempérance demande de s'achever dans la vertu de chasteté. Et la vertu de chasteté, c'est de pouvoir faire que l'instinct sexuel soit dominé par la prudence, par la vertu. Donc devienne un domaine rationnel, humain. Oui, ça c'est le fondement de la famille. Je crois que s'il n'y a plus ces vertus-là, la famille ne peut pas tenir. Parce que c'est toujours par le point de vue de l'instinct sexuel que la famille saute. Et par le boire et le manger aussi. L'alcoolisme, c'est un manque de tempérance. Et quand le mari devient alcoolique, c'est pas drôle pour la femme. Parce que vous savez bien qu'on a... Il y a un alcoolisme violent. Il y a un alcoolisme doux. Vous savez qu'il y a des alcooliques qui sont pieux et des alcooliques qui sont anti-curés. Très, très connu. On a tous fait, dès qu'on a la vie religieuse, on fait tous cette expérience de voir des alcooliques, parce que des gens qui sont ivres, parce qu'ils sont, quand ils sont ivres, ils embrassent tous les curés. Et d'autres, au contraire, quand ils sont ivres, ils sont farouches. Ils les tueraient bien. C'est très curieux ces choses-là, c'est intéressant au point de vue psychologique. C'est un enracinement psychologique très fort. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille réclame la vertu. Je crois que la famille ne peut pas tenir sans la vertu. Des vertus fondamentales. Alors savoir si les vertus fondamentales, comme les vertus cardinales, peuvent-elles exister, s'exercer sans l'éthique religieuse? Et est-ce que l'éthique religieuse peut s'exercer sans une éthique chrétienne? Alors, il y a un lien beaucoup plus fort entre l'éthique religieuse et l'éthique fondamentalement humaine. Entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Mais il faut bien respecter la différence de lien. Il y a un lien essentiel entre l'éthique fondamentalement humaine et l'éthique religieuse. Ce qui fait que la famille famille, j'oserais presque dire, ne peut exister comme famille que si elle était religieuse. Je crains très fort que lorsqu'il n'y a plus l'éthique religieuse, la famille ne peut pas durer. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus se marier, même devant le maire, et surtout pas lui à l'église. Parce que ça donne une exigence de l'indissolubilité du mariage qui est ponctuée par le point de vue religieux. Or, un mariage, un foyer où il n'y a plus ce point de vue de l'indissolubilité du mariage, ça ne dure pas. Parce que ça reste au niveau passion. Et quand ça reste au niveau passion, les passions de 20 ans et les passions de 40 ans ne sont plus les mêmes. Vous remarquerez ça dans la vie. Elles sont les mêmes quand elles sont dominées par la vertu. Grâce à la vertu, la fidélité dans l'amitié peut exister. Mais la fidélité dans l'amitié n'existe pas au niveau passionnel. Ça, on a toujours très peur. Mais ça se rend compte, vous savez, des gosses qui à 15 ans, on dit « Ah, tu seras ma fiancée plus tard. » Puis quand ils arrivent à 18, 20 ans, c'est plus la même chose. Vous voyez, il y a un changement. Et entre 20 ans et 40 ans, au niveau passionnel, il y a une usure. Donc il y a des dérapages. Parce qu'il y a des jours de glace. Donc il y a des dérapages. Et les dérapages font que la fidélité ne tient plus. Ça cause des choses invraisemblables dans ce domaine-là. Tout ça, ça fait partie de la philosophie du mariage. On doit regarder ça, la philosophie du mariage, aujourd'hui. Et voir qu'il y a des principes qui demeurent au-delà du temps et qui font que la fidélité du mariage devient beaucoup plus difficile. C'est vrai, je comprends très bien quelqu'un qui regarde ça indépendamment du point de vue religieux. C'est impossible. C'est impossible. Psychologiquement parlant, c'est impossible. On ne va pas. On vit dans un univers qui fait qu'il faut le mariage libre. Oui, on se marie pour 20 ans. 15 ans. Il vaut mieux 15 ans. 20 ans, c'est déjà trop. On se marie pour 15 ans. Puis on verra au bout de 15 ans si on recommence encore. Après 15 ans, mettons 10 ans. Et ce sont les chiffres, c'est très curieux, hein, quand on essaie de regarder un tout petit peu ce qui se passe autour de soi. Oui, alors, ce serait très intéressant de voir que la fidélité dans le mariage implique l'aspect religieux. Parce que la fidélité, c'est un amour spirituel. Il n'y a pas de fidélité au niveau passionnel. Donc la fidélité ne peut être qu'au niveau spirituel. Alors on comprend que le mariage ne peut être cellule stable de la politique, de la communion politique, que s'il y a le point de vue religieux. Les hommes politiques devraient comprendre ça. Parce que dès qu'un homme politique ne comprend plus ça, il détruit la politique. Il ne peut plus y avoir de politique, il n'y a plus de famille. C'est la destruction de la politique. Je crois que c'est très important pour nous, vous voyez, d'en avoir la conviction personnelle. Je vous dis ça, c'est pour que vous y réfléchissiez, et que vous ayez une conviction personnelle. Et qu'en face de ceux qui sont dans une éthique absolument libérale, ou dans une conception socialiste du mariage, on destruction d'aspect politique. Or, l'aspect politique, quand il n'existe plus, ça détruit ce son pays. Il faut. Si on fait un tout petit peu de philosophie politique, c'est pour comprendre ça, pour comprendre où a lieu la destruction de la chose. Alors, la fois prochaine, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est que le bien commun politique. Voyez, le bien commun familial et naturel. Le bien commun politique n'est plus entièrement naturel. Tandis que le bien commun familial